Comptabiliser le bonheur. Nous avons jusqu'ici traité du bonheur comme s'il était largement un produit de facteurs matériels tels que la santé, le régime alimentaire et la richesse. Si les gens sont plus riches et se portent mieux, ils doivent être aussi plus heureux. Mais est-ce réellement si évident? Philosophes, prêtres et poètes ruminent depuis des millénaires sur la nature du bonheur. Et beaucoup on conclut que les facteurs sociaux, éthiques et spirituels n'ont pas moins d'effet sur notre bonheur que les conditions matérielles. Malgré la prospérité, peut-être les citoyens des sociétés d'abondance souffrent-ils beaucoup de l'aliénation et du manque de sens. Et peut-être nos ancêtres moins à l'aise trouvaient-ils beaucoup de satisfaction dans la communauté, la religion et leurs liens avec la nature. Dans les dernières décennies, psychologues et biologistes ont relevé le défi d'une étude scientifique de ce qui rend réellement heureux. L'argent, la famille, la génétique, la vertu peut-être? La première étape consiste à définir ce qu'il faut mesurer. Suivant la définition généralement acceptée, le bonheur est le bien-être subjectif. Dans cette optique, le bonheur est une chose que je ressens en moi, un sentiment de plaisir immédiat ou de contentement à long terme du cours que suit ma vie. Mais si c'est une chose ressentie intérieurement, comment la mesurer de l'extérieur? Nous pouvons vraisemblablement y parvenir en demandant aux gens de nous dire ce qu'ils ressentent. Les psychologues ou les biologistes qui veulent évaluer le bonheur qu'éprouvent les gens leur donnent des questionnaires à remplir et comptabilisent les résultats. Un questionnaire type sur le bien-être subjectif demande aux personnes interrogées de noter de 0 à 10 leur accord avec des propositions du style « Je suis satisfait de ma situation. Je trouve la vie très gratifiante. Je suis optimiste quant à l'avenir. » et « La vie est belle. » Le chercheur additionne ensuite les réponses et calcule le niveau général de bien-être subjectif du sujet. On se sert de questionnaires de ce genre pour corréler le bonheur à divers facteurs objectifs. Une étude pourrait ainsi comparer un millier de gens qui gagnent 100 000 dollars par an à un millier d'autres qui en gagnent 50 000. S'il observe que le premier groupe a un indice moyen de bien-être subjectif de 8,7 et le second de 7,3 seulement, le chercheur peut raisonnablement conclure à l'existence d'une corrélation positive entre la richesse et le bien-être subjectif. En bon français, l'argent fait le bonheur. On peut employer la même méthode pour voir si les habitants des démocraties sont plus heureux que ceux des dictatures, ou si les gens mariés sont plus heureux que les célibataires, les divorcés ou les veufs. Cela donne des bases aux historiens qui peuvent alors examiner la richesse, la liberté politique et les taux de divorce dans le passé. Si les gens sont plus heureux dans les démocraties et les gens mariés plus heureux que les divorcés, l'historien est fondé à soutenir que la démocratisation des toutes dernières décennies a contribué au bonheur de l'humanité, alors que le nombre croissant des divorces indique une tendance contraire. Cette approche n'est pas exempte de défauts, mais avant d'en pointer les failles, il vaut la peine de s'arrêter sur les conclusions. L'une d'elles, intéressante, est que l'argent est bel et bien une source de bonheur, mais uniquement jusqu'à un certain point. Au-delà, il a peu de sens. Pour les gens cloués au bas de l'échelle, plus d'argent signifie un plus grand bonheur. Si vous êtes une mère célibataire américaine qui gagne 12 000 dollars par an comme femme de ménage et que vous gagnez soudain 500 000 dollars au loto, probablement connaîtrez-vous une poussée significative et durable de votre bien-être subjectif. Vous allez pouvoir nourrir et habiller vos enfants sans vous endetter davantage. Mais si vous êtes un cadre supérieur à 250 000 dollars par an et que vous en gagnez 1 million, ou que votre conseil d'administration décide subitement de doubler votre salaire, la poussée risque fort de ne durer que quelques semaines. Si l'on en croit les données empiriques, cela ne changera pas grand-chose à ce que vous ressentez à la longue. Vous achèterez une chouette voiture, emménagerez dans un palais, prendrez l'habitude de boire du Château Pétrus plutôt que du Cabernet de Californie. Mais tout cela vous paraîtra bien vite routinier et ordinaire. Un autre constat est que la maladie diminue le bonheur à courte échéance, mais n'est une source de détresse à plus long terme que si l'état de la personne ne cesse de se dégrader et entraîne une douleur permanente et débilitante. Les gens auxquels on diagnostique des maladies chroniques, comme le diabète, passent généralement par une phase de déprime. Mais si la maladie n'empire pas, ils se font à leur nouvel état et évaluent leur bonheur au même niveau que les bien portants. Imaginez que Lucie et Luc, jumeaux, appartenant aux classes moyennes, acceptent de participer à une étude du bien-être subjectif. Ils rentrent du labo de psychologie quand un bus heurte la voiture de Lucie. Bilan, fracture multiple et une jambe définitivement amochée. Alors que les sauveteurs la retirent de la carcasse de sa voiture, le téléphone sonne. C'est Luc qui crie qu'il a gagné le jackpot de 10 millions au loto. 2 ans plus tard, elle claudiquera et il sera beaucoup plus riche. Mais quand le psychologue viendra pour l'étude de suivi, probablement donneront-ils tous deux les mêmes réponses que le matin de ce jour fatidique. Il semble que la famille et la communauté aient plus d'impact que l'argent et la santé sur notre bonheur. Les gens qui ont des familles solides et qui vivent au sein de communautés serrées où l'entraide est de règle sont sensiblement plus heureux que les gens dont les familles sont dysfonctionnelles et n'ont jamais cherché ou trouvé de communauté. Le mariage est particulièrement important. Des études répétées ont constaté l'existence d'une relation très étroite entre couples bien assortis et bien-être subjectif élevé, et entre mariage raté et misère. Cela est vérifié indépendamment des conditions économiques et même physiques. Un invalide impécunieux, entouré d'une épouse aimante, d'une famille dévouée et d'une communauté chaleureuse, peut fort bien se sentir mieux qu'un milliardaire aliéné, sous réserve que la pauvreté de l'invalide ne soit pas trop sévère, et qu'il ne souffre pas d'une maladie dégénérative ou douloureuse. Dès lors, on ne saurait exclure la possibilité que l'immense amélioration des conditions matérielles au cours des 2 derniers siècles ait été annulée par l'effondrement de la famille et de la communauté. Les habitants du monde développé comptent sur l'État et le marché pour presque tout ce dont ils ont besoin : vivre, toit, éducation, santé, sécurité. Il est donc devenu possible de survivre sans famille élargie et sans amis véritables. Une personne habitant un grand immeuble est entourée de milliers de gens où qu'elle aille, mais elle pourrait bien ne jamais mettre le pied chez ses voisins et ne pas savoir grand-chose de ses collègues de travail. Ses amis aussi pourraient bien être de simples camarades de bistrot. De nos jours, les amitiés se réduisent souvent à parler et à s'amuser ensemble. On retrouve un ami au pub, on lui passe un coup de fil, on lui envoie un email. Et l'on peut vider ainsi sa colère après ce qui s'est passé au bureau ou partager nos points de vue sur le tout dernier scandale politique. Mais comment connaître réellement une personne sur la seule base des conversations? À la différence des camarades de bistrot, les amis de l'âge de pierre avaient besoin les uns des autres pour survivre. Les êtres humains vivaient en communauté très soudée et les amis étaient des gens avec qui on partait chasser le mammouth. On survivait ensemble à de longs périples et à des hivers rigoureux. Si l'un tombait malade, on prenait soin de lui et en cas de pénurie, on partageait ses derniers morceaux de nourriture. Ses amis se connaissaient plus intimement que bien des couples de nos jours. Combien de maris peuvent dire comment leur femme se conduira s'ils sont chargés par un mammouth enragé? Le remplacement de ces réseaux tribaux précaires par la sécurité des économies et des états nourrices modernes présente d'immenses avantages, mais la qualité et la profondeur des relations intimes en a probablement souffert. Toutefois, le constat de loin le plus important est que le bonheur ne dépend pas vraiment des conditions objectives, richesse, santé ou même communauté. Il dépend plutôt de la corrélation entre conditions objectives et attentes subjectives. Si vous voulez un char à bœufs et que vous en obtenez un, vous êtes satisfait. Si vous voulez une Ferrari neuve et que vous n'obtenez qu'une Fiat d'occasion, vous êtes frustré. C'est bien pourquoi, le temps passant, gagner à la loterie a le même impact sur le bonheur des gens qu'un accident de voiture qui vous laisse invalide. Quand les choses s'améliorent, les espérances s'envolent au point que même des améliorations spectaculaires des conditions objectives peuvent laisser insatisfait. Si les choses se dégradent, les espérances se réduisent au point que même une maladie grave pourrait bien vous laisser aussi heureux qu'auparavant. Peut-être direz-vous qu'on n'avait pas besoin d'une bande de psy et de leurs questionnaires pour le découvrir. Voici des milliers d'années que les prophètes, les poètes et les philosophes ont découvert qu'être satisfait de ce que l'on a déjà importe bien davantage que d'obtenir plus de ce que l'on désire. C'est quand même épatant que la recherche moderne, à grand renfort de chiffres et de graphiques, en arrive aux mêmes conclusions que les anciens. L'importance cruciale des espérances humaines est lourde de conséquences pour comprendre l'histoire du bonheur. Si le bonheur ne dépendait que de conditions objectives telles que la richesse, la santé et les relations sociales, il eût été relativement facile d'en étudier l'histoire. Qu'il dépende d'attentes subjectives achève de compliquer la tâche des historiens. Nous, modernes, avons à notre disposition tout un arsenal de tranquillisants et d'analgésiques, mais nos attentes en matière d'aise et de plaisir et notre intolérance à toute forme de gêne ou d'inconfort ont pris tant d'ampleur que nous pouvons bien souffrir de la douleur plus que n'en ont jamais souffert nos ancêtres. Cette forme de raisonnement est difficile à accepter. Le problème est un sophisme bien ancré dans notre psyché. Quand nous essayons de deviner ou d'imaginer dans quelle mesure les autres sont heureux ou l'étaient jadis, nous nous imaginons immanquablement dans leurs souliers. Or, cela ne fonctionne pas, parce que cela revient à plaquer nos espérances sur les conditions matérielles des autres. Dans les sociétés d'abondance moderne, il est devenu courant de prendre une douche quotidienne et de changer de vêtements. Les paysans du Moyen-Âge passaient des mois sans se laver et ne changeaient pour ainsi dire jamais d'habit. La seule pensée de vivre ainsi, crasseux et empestant, nous révulse. Apparemment, nos paysans s'en fichaient. Ils étaient habitués au contact et à l'odeur d'une chemise sale. Non qu'ils eussent aimé se changer, mais qu'ils ne le pouvaient pas. Ils avaient ce qu'ils voulaient. Côté habillement, ils étaient satisfaits. Quand on y pense, ce n'est pas si étonnant. Après tout, nos cousins chimpanzés se lavent rarement et ne changent jamais d'habit. Et que nos chiens ou chats domestiques ne se douchent ni ne se toilettent tous les jours ne nous répugne pas. Nous les caressons, les serrons dans nos bras et les embrassons quand même. Dans les sociétés d'abondance, les enfants en bas âge aiment rarement se doucher et il faut des années d'éducation et de discipline parentale pour adopter cette discipline censément attrayante. Tout cela est affaire d'attente. Si ce sont les attentes qui déterminent le bonheur, il est fort possible que les deux piliers de notre société, les médias et la publicité, épuisent à leur insu les réserves de contentement de notre planète. Dans un petit village, voici 5000 ans, un jeune de 18 ans devait se trouver canon, vu qu'il n'y avait que 50 autres hommes, pour la plupart des vieux, balafrés et ridés, ou des gosses. De nos jours, un adolescent a toute chance de se sentir mal dans sa peau. Même si les copains d'école sont mochards, ce n'est pas à eux qu'ils se comparent, mais aux stars de cinéma, aux athlètes et aux mannequins qu'on voit tous les jours à la télé, sur Facebook ou sur les panneaux d'affichage géants. Peut-être le malaise du tiers-monde n'est-il pas simplement l'effet de la pauvreté, de la maladie, de la corruption et de l'oppression politique, mais aussi celui de la simple exposition aux normes du premier monde. L'Égyptien moyen risquait beaucoup moins de mourir de faim, d'épidémie ou de violence sous Hosni Moubarak que sous Ramsès II ou Cléopâtre. Jamais la situation matérielle des Égyptiens moyens n'avait été aussi bonne. On aurait pu croire qu'ils allaient danser dans les rues en 2011 pour remercier Allah de leur bonne fortune. Au lieu de quoi, ils se révoltèrent pour renverser Moubarak. Ce n'est pas à leurs ancêtres du temps des pharaons qu'ils se comparaient, mais à leurs contemporains occidentaux aisés. Si tel est le cas, même l'immortalité pourrait nourrir le mécontentement. Supposons que la science trouve des remèdes à toutes les maladies, des thérapies efficaces contre le vieillissement et des traitements régénérateurs qui gardent les gens indéfiniment jeunes. Il en résultera très probablement une épidémie de colère et d'anxiété. Ceux qui ne pourront s'offrir les nouveaux traitements miraculeux, l'immense majorité des gens, seront fous de rage. Tout au long de l'histoire, les pauvres et les opprimés se consolaient à l'idée que la mort au moins était équitable. Les riches et les puissants mourront eux aussi. Les pauvres auront du mal à avaler qu'ils sont promis à la mort, alors que les riches resteront à jamais jeunes et beaux. L'infime minorité de ceux qui ont les moyens de s'offrir les nouveaux traitements ne sera pas euphorique non plus. Ils ne manqueront pas de raison de s'inquiéter. Si les nouvelles thérapies peuvent prolonger la vie et la jeunesse, elles ne peuvent ressusciter les morts. Que c'est affreux de se dire que moi et ceux que j'aime, nous sommes promis à la vie éternelle, à moins qu'un camion ne nous renverse ou qu'un terroriste ne nous réduise en charpie. Des gens immortels ont toute chance d'acquérir une forte aversion pour le risque, si infime soit-il, et la souffrance liée à la perte d'un conjoint, d'un enfant ou d'un ami proche sera insupportable.